Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Christian Dubé, ministre de la Santé, il est en studio. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en chicane avec les médecins omnipraticiens?
Non, pas vraiment.
Je pense que oui, ça ressemble à ça.
Je dirais plutôt qu'on est en négociation.
Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a question d'une prime qui va tomber et là, il y aurait 900 000 Québécois qui seraient à risque de pas avoir accès à leur médecin.
Ben, ce soir, ce que je veux faire, M. Lagacé, avec vous, là, puis j'ai fait ça toute la journée, c'est de rassurer les Québécois que le gap est là pour rester. Le fameux guichet qu'on a mis en place, qui n'est pas parfait encore, mais qui s'améliore à tous les jours, les Québécois y ont goûté. Il y a 900 000 Québécois qui ont goûté au fait qu'il y a quelques années, ils ne savaient pas où appeler, il n'y avait pas de service. Ils ont été capables d'avoir un contact avec un professionnel. Bon, maintenant, c'est sûr que on avait prévu il y a 2 ans que cette entente-là finissait en mai 2024. C'est pas une surprise pour personne d'arriver puis de dire qu'on veut déchirer l'entente. C'est pour ça que j'ai décidé, moi aussi, d'aller sur la place publique parce que ces négociations-là, quand il y a des négociations, ça devrait rester en dehors de l'espace public. Alors, comme il s'est dit des choses qu'on voulait déchirer une entente, écoutez, on n'est pas là du tout. Moi, il y a tellement de bénéfices avec ça, avec ce service-là, qu'il faut qu'il soit maintenu. Maintenant, il y a des négociations. On a maintenant des données sur ce qui est arrivé au cours des 2 dernières années. Il est tout à fait normal que le gouvernement dise « Est-ce qu'il y a des modifications à faire? » La réponse est oui, le système est loin d'être parfait. Alors donc, moi je regarde ça comme n'importe quel autre dossier. Je m'assois avec la FMOQ, puis on peut-tu en parler pour discuter, mais pas sur la place publique. Parce que les Québécois, la dernière chose qu'ils ont besoin de se faire dire, c'est quelque chose qui commence à bien fonctionner, devrait être arrêté, c'est pas ça l'objectif.
Bon, le gap, là, ça a été créé en 2022. Il y a une nouvelle dans la presse qui est sortie cet après-midi qui concerne le gap, justement. Là. Il semble que la moitié des patients inscrits à un GMF, grâce à cet outil, n'ont pas obtenu de rendez-vous médical dans les 2 dernières années. Tu sais, je comprends le tableau de bord, je comprends le nouvel outil, mais savez-vous quoi? J'ai l'impression que dans les statistiques, on dit que les Québécois ont finalement accès à un médecin de famille. Mais d'y avoir accès dans le réel, c'est 2 affaires complètement différentes.
Il y avait 3 objectifs dans l'entente qu'on a signée en 2022. 3 objectifs. 1, de prendre les patients puis de les sortir de la liste d'attente, premièrement. Deuxièmement, on a dit, il va falloir qu'il y ait un rendez-vous, OK, au moins 1 fois par année, parce que des gens qui faisaient 6 ans qu'ils n'avaient pas vu un médecin, ça, c'est le 2e objectif. Donc, de rendre des rendez-vous disponibles. S'il y a 900 000 rendez-vous. OK? Facile. Mais troisièmement, les patients doivent être vus dans un délai de 36 heures quand le type de rendez-vous l'exige.
Mais on est loin de ça, là. Je veux dire, c'est pas une garantie, là. Quiconque va sur les plateformes vers lesquelles vous nous dirigez n'a pas une garantie de service comme
bon,
ça.
Regardez, j'ai publié, là, vous parlez des tableaux de bord. Le temps d'attente pour avoir un rendez-vous là, depuis 3 mois, là, au fur et à mesure que le gap s'améliore, il s'est réduit de moitié. J'ai publié sur les réseaux sociaux cette semaine pour expliquer ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, je dis, avant de renégocier une nouvelle entente, une nouvelle mouture du gap, j'ai besoin d'avoir des données. Je les ai maintenant avant. Une des raisons pour laquelle ça a été un peu difficile, je vais le dire comme ça, avec les médecins de famille, c'est qu'on n'était pas capable d'avoir accès aux 600 cliniques, là, les 600 GMF, de combien de prises en charge faisaient, dans quel délai, tout ce que vient de... J'ai accès maintenant à cette information-là. Alors, il est tout à fait normal qu'on se dise, écoutez, on a mis beaucoup d'argent là-dedans, on est-tu capable de voir qu'on s'en va dans la bonne direction?
Je croule sous les messages du public aujourd'hui, pas chaque jour, mais très, très souvent. Dans mon entourage, cette semaine, M. Dubé, j'ai eu une discussion avec une proche qui n'a pas de médecin de famille, qui attend le message. Et là, elle considère d'aller au privé. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne paye pas ma consultation au privé quand je ne suis pas capable d'avoir un rendez-vous au public?
Quand j'ai fait mon fameux projet de loi 15 l'an dernier, là, vous en avez entendu assez parler,
oui.
C'est exactement ce que j'ai dit. Quand je vais être capable d'avoir les données que je vous dis que je viens d'avoir, là, que je viens de les avoir, quand un rendez-vous ne sera pas pris dans des délais raisonnables, les gens vont pouvoir aller au privé. Mais ça vient d'être voté, ça, là, là. Alors, tous ces changements-là qu'on est en train de faire vont permettre d'avoir ces changements-là de comportement. Je vous dirais
une chose. Non, mais vous répondez pas à ma question.
Oui, je
présentement,
réponds.
Non, présentement, là, disons que quelqu'un qui nous écoute, là, est obligé, là, de prendre un rendez-vous dans une clinique privée puis de payer. Ça peut être très cher, là, une consultation, là, ça peut aller jusqu'à 200$. Tu as besoin d'une référence, tu as besoin, t'as mal à la tête, tu as mal au ventre. Faut que tu payes, parce que quand tu vas dans les plateformes, tu n'en trouves pas de rendez-vous. Pourquoi est-ce que vous ne me remboursez pas le 200$ pour la consultation si vous n'êtes pas capable de me donner le rendez-vous public?
Monsieur Lagacé, ce que je vous dis, c'est que dans le projet de loi qu'on a déposé, qui est maintenant voté, puis il reste juste les règlements à faire, on va avoir l'obligation de faire ça.
En combien de temps?
Ben, dans un délai raisonnable.
Si vous, c'est quoi raisonnable?
Tantôt, je vous ai dit, là, vous appelez. Vous voulez avoir, par exemple, un examen annuel. Ça n'a pas besoin d'être dans 36 heures. On s'entend, un examen annuel, vous pouvez dire, on m'a donné le rendez-vous dans 3 semaines, c'est correct. Vous avez un gros mal de ventre, ben ça doit être au moins à l'intérieur de 36 heures. Ce que je vous dis, c'est que ça, c'est possible maintenant. Ce que j'avais besoin, c'est d'avoir les données dont je suis tenant avec ça, là. Mais il n'y a jamais eu cette information-là dans le réseau. On l'a maintenant. Alors, on va être capable d'agir. Et c'est pour ça que je dis aux médecins, maintenant qu'on a ces informations-là, moi, je suis prêt à donner plus d'argent, mais je veux avoir plus d'accès. C'est ça qui est important.
Tu sais, vous me dites que c'est un délai raisonnable. Présentement, là, ce que vous me dites là, je trouve que c'est très théorique. Puis je sais que vous êtes un gars de terrain, là, mais il y a trop de gens dans mon entourage, il y a trop de gens qui m'écrivent, que ce soit pour des spécialistes ou que ce soit pour des médecins omnipraticiens, ils sont pas capables d'avoir de rendez-vous. Puis je comprends là, que ça s'en vient, puis le projet de loi, puis je comprends ouais, surtout, mais puis je veux pas être méchant avec vous,
non,
là.
Non, pas
mais
du tout,
regardez, je comprends que ça va peut-être s'arranger quand vous serez plus là.
Non. C'est en train de s'arranger. Regardez, M. Lagacé, là, je vais être très clair. En ce moment, là, vous en entendez parler, moi, je n'entends parler. Il y a seulement 10% des personnes, 10%, qui passent par le gap, qui ne sont pas capables d'avoir un rendez-vous dans un délai raisonnable. 10%. C'est sûr que c'est eux autres qu'on entend parler, puis avec raison.
Ben, mais, 10%, là, je m'excuse de vous interrompre, sur des centaines de milliers de personnes,
ben oui,
c'est beaucoup de monde.
Non, mais c'est exactement pour ça que je vous dis. Mais on a quand même réglé 90% depuis 2 ans. Okay?
Oui.
Bon, ce 10%-là, c'est sur ça que je travaille. Et c'est pour ça que je dis, si, par exemple, des médecins ont été payés pour prendre des gens en charge, mais qu'ils n'ont pas vu, on n'a pas atteint nos objectifs sur le 10% qui manque.
Ce que vous me dites, c'est que, OK, êtes-vous en train de me dire aussi que un jour, là, bientôt, là, si je suis obligé d'aller au privé pour voir un médecin parce que je ne peux pas le voir au public, vous allez me rembourser?
C'est dans la loi.
Même pour un omni?
Bien, on va voir comment... Ce qu'il faut définir, c'est quoi un délai raisonnable pour chacun des... Un remplacement de la hanche, ça peut être 9 mois.
Mais vous êtes le ministre. Pour vous, c'est quoi? OK, on va y aller. J'ai mal au ventre, là. Je ne sais pas ce que j'ai, là.
Mm-hmm.
Puis, faut que je voie un médecin. Parce que si je veux voir un spécialiste, faut que je voie un médecin omnipraticien. Pour vous, c'est quoi un délai raisonnable pour ça?
Quand vous remplissez maintenant le petit feuillet qu'on a fait pour le gap, là, on appelle ça le gap numérique, là. On définit à peu près une douzaine d'actes. Vous irez voir sur le site, là, une douzaine d'actes qui sont soit mineurs, moyens ou majeurs. Et ça, c'est sûr que les délais vont changer en fonction. Mais je pourrais vous dire que quelqu'un qui, après avoir parlé à l'infirmière, qui dit, moi, là, j'ai vraiment mal au ventre, on va lui donner ce rendez-vous-là dans le délai de 36 heures.
OK. Puis pour ce qui est des spécialistes maintenant.
Bon, OK.
Je vais vous donner un cas très, très précis.
Je suis content parce que là, si on règle les omnis, les spécialistes.
Le temps qui m'est alloué n'est pas infini. Okay. Non, mais OK. Regardez, il y a une femme qui m'écrit, son fils étudie en technique policière, se scrape l'épaule. Il a besoin d'une opération parce que si son épaule n'est pas optimale, il ne pourra jamais être en technique policière, devenir policier.
Bon,
là, il est sur la liste d'attente. Il ne sait pas quand il va passer. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Elle peut même pas savoir où est sa liste d'attente.
Bon.
Ça, c'est quoi le délai raisonnable avant que l'État paye pour la chirurgie au privé?
Moi, je vous dirais que ça va être 3 mois, 6 mois ou 9 mois, dépendamment de la gravité. En ce moment, regardez, là, des chirurgies en attente de plus qu'un an, là, j'en avais 24 000 il y a à peu près un an. On a réussi à baisser ça à 11 000. J'ai dit que d'ici la fin de 2024, il en resterait 2 500. On est en train d'avancer là-dedans, M. Lagacé.
Et j'ai pas l'impression qu'on avance. Il me semble qu'on est toujours dans les mêmes enjeux.
Non, c'est toujours les mêmes enjeux. Le point, c'est est-ce qu'on agit sur chacun? Moi, ce que je vous dis, et c'est pour ça que les tableaux de bord, j'y reviens souvent, regardez dans le détail de ces tableaux-là, là, puis je parlais à une journaliste de la presse aujourd'hui qui fait le point sur les urgences, etc. C'est en train d'avancer. Moi, j'avais mis un horizon 2025. Retourner un bateau de 330 000 personnes, j'aimerais ça dire que ça se fait en 6 mois, mais c'est pas vrai. À date, en 2022, on a fait le plan. Horizon 2025, on est exactement à moitié chemin. Puis tous les changements que je vous parle avec les omnis, avec les syndicats, les conventions collectives, c'est tout en train d'avancer. Puis au fur et à mesure, on s'améliore. C'est ça que j'allais dire.
OK. Puis est-ce qu'on va avoir un système de santé optimal quand vous allez être encore ministre ou si vous nous promettez ça après la fin de votre mandat? Parce que je ne suis pas sûr que vous allez vous représenter.
Bien ça, on en discutera dans les lieux. Mais ce que je vous dirais aujourd'hui, d'ici quelques semaines, on va avoir des belles annonces sur Santé Québec.
Un nouveau. Vous trouvez votre Top Gun?
C'est fait.
C'est fait.
C'est fait. On va l'annoncer dans les prochaines semaines. Puis, comme j'ai dit, on va avoir
des. Quelqu'un qui est du milieu de la santé?
Je vais regarder ça pour les prochaines semaines. Mais ce que je vous dis, c'est que moi, je vais m'assurer, au cours des 2 prochaines années, que les gros changements qu'on est en train de faire, on vient d'en discuter un, le GAP, c'en est un, convention collective, les agences de placement. Moi, je me suis engagé envers le ou la nouvelle CEO que ces changements-là, je vais les mettre en place. Quand il y aura eu la nomination, puis qu'ils seront là depuis 2 ans, c'est ça qu'il faut s'assurer, de la pérennité de tous les changements qu'on a faits. Pour s'assurer que à chaque année, on va continuer de s'améliorer.
Tu sais, quand je vous dis que j'ai pas l'impression que ça s'améliore, tu sais, ça fait quoi, 20 ans que je couvre l'actualité puis la santé, on revient toujours aux mêmes affaires. Il y a un monsieur qui s'appelle Normand Meunier. Il est apparu dans l'actualité, c'est une histoire pathétique, là, vous le savez. À l'hôpital de Saint-Jérôme, c'est un monsieur qui est paralysé. Il y a eu des plaies de lit tellement profondes, tellement graves, qu'il souffre maintenant en permanence. Parce qu'on lui a pas donné le matelas de compression, qu'on appelle, là. Et il a demandé l'aide médicale à mourir. Question là-dessus. L'enquête en est où? Y a-t-il quelqu'un qui va payer pour ça? Y a-t-il quelqu'un qui va avoir des conséquences? Parce que ce genre d'histoire-là, là, elle pourrait se passer en 96, elle pourrait se passer en 2004. C'est pour ça que je vous dis que c'est comme si ça ne s'améliorait pas.
Bien, écoutez... Je trouve ça inacceptable. Je l'ai dit la journée que j'ai appris ça. J'ai
mais c'en est où? Il doit y avoir une enquête?
Ben oui, il y a une enquête qui est en train d'être faite. Puis s'il y a assez de faits clairs qu'il y a eu des manquements, faut travailler sur des faits, non? Ben, à ce moment, on ira peut-être plus loin dans une enquête externe puis avec les mesures qui viennent avec ça. Mais je vous dirais, M. Lagacé, je me souviens parce que... Quand je suis allé à Tout le monde en parle à peu près à tous les ans, quand on parle des urgences, j'ai dit, écoutez, je vais être capable de vous prouver qu'on s'améliore. Je vais être capable de vous le prouver. Je répète que j'ai assez de support à l'intérieur du réseau, assez de support de la partie des Québécois, que oui, il y a encore des exceptions comme ça qui sont épouvantables, qui sont pas acceptables. Mais j'ai une équipe en ce moment, puis surtout avec la mise en place de nos gestionnaires de Santé Québec, là, d'avoir les meilleures pratiques dans tous les réseaux de santé, je pense qu'on est capable d'amener ça chez nous. C'est ça qu'on est en train de faire.
Merci d'être venu nous voir, M. Dubé. Merci. C'était le ministre de la Santé, Christian Dubé.
Merci.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le
Québec maintenant.
Mon nom, c'est Liu Johan. Je suis un médecin que maintenant j'ai humanitaire. Quand j'étais adolescente, je faisais de l'improvisation, je faisais beaucoup de dessins. Pendant tout mon cours de médecine, j'ai fait de la poterie. Puis je considère que l'art est essentiel.
Vous avez sans doute reconnu sa voix, Dr. Joanne Liu, l'ex-présidente internationale de Médecins sans frontières, désormais professeure à l'Université McGill et commissaire du Scriptarium 2024. J'ai le plaisir d'accueillir Dr. Liu en studio. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi ce Scriptarium?
Bien, Scriptarium, c'est un projet pour les jeunes. Donc, on parle de jeunes entre 12 et 17 ans. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est un projet que à chaque année, on a un commissaire qui donne un thème. Et à partir de ça, les jeunes écrivent des thèses dramaturgiques. 1500 jeunes participent. Wow. Il en sélectionne à peu près 600. Et puis là, c'est relu. Puis à la fin, on en garde à peu près une douzaine. Et on fait une pièce de théâtre avec ça.
OK, donc il y a des thèmes imposés quand même.
Oui.
Cette année, c'est quoi?
Donc, le thème que j'ai choisi, c'est l'engagement.
L'engagement, c'est quelque chose que vous connaissez, évidemment. Puis, qu'est-ce que vous espériez que les jeunes écrivent à propos de l'engagement quand vous avez lancé cette idée-là?
C'est intéressant parce que moi, comment je voyais ça, c'est que à l'aube de ma vie, quand j'étais adolescente, quand j'ai fait ma crise existentielle à leur âge, c'est important de me trouver une voie d'engagement. Et donc, je me suis comme un peu projetée là-dedans. Je voulais qu'il me raconte un peu quelles sont les causes, les thèmes, les raisons qui seraient prêts à s'engager, à perdre des plumes.
Qu'est-ce qui vous a frappé dans les textes qui ont été reçus au Scriptarium 2024? La première est ce soir, je le souligne. Là. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce que vous avez pu lire?
La maturité de leurs textes. Vraiment, c'est troublant. C'est d'une richesse incroyable. Et c'est en fait... c'est pas autant... Ils parlent de l'engagement, mais plus en sens... Comment puis-je m'engager aujourd'hui quand je vis dans une terre aussi, dans une planète aussi poquée?
Qu'est-ce qui les préoccupe?
Bien, ils les préoccupent que ça va pas bien. Puis ils le savent que ça va pas bien, puis ça les essouffle. Et puis, tout ça, cet essoufflement-là, ben, ça se traduit que même physiquement, juste sortir de leur lit, c'est difficile. Juste essayer de savoir, est-ce que je vais rentrer au cégep, dans quelle branche, avec science, pas science, ça devient difficile. Donc, juste l'engagement de faire un prochain pas est difficile.
OK. Puis là, la première, et ce soir, c'est au Théâtre Denise Pelletier à Montréal. On fait un spectacle sur scène avec des textes reçus. J'ai jamais vu Scriptarium. Expliquez-moi à quoi ça risque de ressembler.
Ben c'est donc moi non plus j'ai jamais vu, donc je vais le voir ce soir là en vrai. Mais les textes, ils ont mis les textes, puis vu qu'il y a le thème rassembleur, c'est l'engagement. Donc on a différentes, je dirais scénettes, et c'est par différents auteurs. Donc, ils ont eu pendant... ils ont fait quand même un week-end, les jeunes ensemble, pour justement essayer de mettre ça ensemble, de mettre ça en forme pour que ça se tienne aussi.
Ceux qui ont été sélectionnés vont être sur scène?
Non. C'est des acteurs, désolé d'être pas clair, là.
Qui vont jouer leur
qui
texte.
Qui vont jouer leur texte, exactement. Parfait. Mais ils vont être dans la salle en train d'écouter.
Bon, un de ceux qui a été sélectionné, Dr. Liu, il s'appelle Théodore Desjardins. Il est au bout du fil. Théodore, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit sur quoi pour le Scriptarium?
Moi, j'ai écrit sur un personnage richissime qui se rend compte de la grandeur, de l'ampleur de sa fortune, de l'emprise que sa fortune a sur lui, mais aussi de l'inaction qu'il a eue tout le long de sa vie face à la pauvreté puis la séparation du monde en classe sociale, la séparation des classes sociales.
Donc, vous vous êtes mis dans la peau de quelqu'un qui est privilégié, là.
Oui, c'est ça.
Puis votre texte ressemblait à quoi?
Un monologue. C'était un monologue où ce personnage-là vivait une sorte de prise de conscience. Mais il posait pas de geste d'engagement en tant que tel. C'est la fin du texte qui sous-entendait qu'il voulait changer les choses, qu'il voulait agir, mais il n'y avait rien de concret comme geste d'engagement.
Dr. Liu, qui est en studio avec moi, a choisi le thème de l'engagement pour le Scriptarium, Théodore. Qu'est-ce que ce mot-là fait résonner chez vous?
Pour pour moi, l'engagement, c'est d'agir contre certains problèmes, que ce soit avec des petits gestes ou des grands gestes. Je sais que c'est très général comme définition, mm-hmm. mais je trouve que l'engagement peut être aussi interprété de différentes manières. Et j'ai vu ça en écoutant les textes de mes camarades qui ont participé au stage d'écriture. Ce qu'on voyait, c'est que ça a été le thème de l'engagement, ça a été vraiment interprété de façon variée. Ça s'orientait, oui, parfois vers de l'engagement pour des grandes causes avec des grands gestes, mais souvent aussi, par exemple, dans l'engagement dans une relation, le dépassement de soi, la prise de conscience, des petites causes ou juste s'indigner contre une situation.
Je reviens à vous, Dr. Liu. Est-ce que c'est une bonne définition de l'engagement que vient de nous livrer Théodore Desjardins?
Oui, c'est une très belle définition. Puis moi, dans mes propres mots, je dis tout simplement que s'engager, c'est battre le statu quo quand ça marche pas. C'est pas accepter que... Et donc, c'est dans les petits gestes comme dans les grands gestes que ça se acte à tous les jours.
Théodore, vous allez être dans l'assistance au théâtre Denise Pelletier ce soir. Êtes-vous nerveux à l'idée de voir vos mots sur scène?
Oui. J'ai bien hâte de voir ça. Puis j'ai aussi hâte d'entendre les textes de mes camarades, de voir comment tout a été assemblé, parce que c'est quand même 23 textes qui ont été sélectionnés au final. Donc, 12 à Montréal, 11 à Québec, je pense. Et j'ai très envie de voir comment Laurie Léveillé, celle qui a assemblé les textes, a réussi à mettre ça ensemble.
Vous avez quel âge, Théodore?
15 ans.
Est-ce que vous connaissiez Dr. Liu avant de vous lancer dans ce projet d'écriture au Scriptarium?
Un peu, oui.
OK. Merci beaucoup. Merci, Théodore. Bonne chance ce soir. On vous dit, en langage de théâtre, on vous dit merde. Dr. Liu, ce soir, vous allez être là. Est-ce que vous prenez la parole sur scène?
Oui, au début, ben, il va y avoir Sylvain Scott, qui est le metteur en scène, puis là, je dirais le moteur de ce projet-là, oui. Puis je vais peut-être faire quelques petits mots. Oui.
Donc, je souligne que c'est à la salle Fred Barry du théâtre Denise Pelletier. Ça commence ce soir jusqu'au 3 mai. Après ça, je pense que ça s'en va à Québec, le spectacle.
Oui, ça va à Québec et ça va être au théâtre des Gros Becs du 8 au 13 mai.
Bon, je sais que vous avez un discours à écrire pour votre présence au Scriptarium ce soir. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci, Dr. Liu.
Merci infiniment.
Toujours un plaisir. C'était Dr. Joanne Liu.
Patrick Lagacé en accéléré.
Je vous parle souvent des écrans, la présence des écrans dans nos vies. D'abord, je trouve que ça occupe beaucoup de notre cerveau, ça nous rend accro à la dopamine. Ça, c'est une affaire d'adulte. Chez les jeunes, chez les enfants, chez les adolescents, il y a beaucoup d'études qui commencent à sortir et qui nous montrent que ça peut être lié à toutes sortes de problématiques de santé mentale. Ça peut accroître l'anxiété chez certains ados. Il y a aussi des zones d'ombre quand... à l'utilisation des tablettes, des téléphones cellulaires quand on parle d'enfants qui sont très jeunes. Parce que quand t'es très jeune, t'es pas supposé d'être dopé à la dopamine. Ben, et ces petits écrans-là, c'est ce que ça déclenche dans le cerveau des humains et des petits humains aussi. Dans le milieu scolaire, on commence à se poser des questions chez plusieurs spécialistes. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des écrans dans les écoles? L'Institut national de santé publique, il y a quelques semaines, a sorti ce qu'on appelle une synthèse. On a pris des études scientifiques, on les a décortiquées pour essayer de voir est-ce que c'est utile d'avoir autant d'outils numériques dans les classes chez les 12 à 25 ans. Le verdict des études scientifiques disponibles jusqu'à maintenant, c'est que... Écoutez, c'est pas si utile que ça, ça peut même être néfaste. Pour ce qui est de la maternelle, pour ce qui est des enfants qui sont très petits, là, il y a beaucoup de pédiatres qui disent plus ils sont petits, moins ils devraient toucher aux écrans. Et il y a une mère de la Rive-Sud qui n'arrive pas à comprendre que sa fille en maternelle doive manipuler une tablette aussi souvent. Je vais pas dire le nom de l'école, je vais pas donner le nom du prof. Le but, c'est pas d'embarrasser, d'humilier personne, c'est toujours de susciter une réflexion pour que les décideurs, comme Bernard Drinville, le ministre, que je trouve assez absent du débat sur les écrans, commencent à se poser des questions sur l'utilisation des écrans dans les écoles. Donc, on va parler immédiatement avec Élodie Bertelier. Elle est étudiante en psychologie à l'Université de Montréal et assistante de recherche au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Madame Bertelier, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Peut-être commencer par nous raconter comment vos inquiétudes se sont révélées là, par rapport à l'utilisation de la tablette dans la classe de votre fille en maternelle.
Ben, ma fille a commencé la maternelle 5 ans cette année. Donc, ils ont des périodes de jeu libre le matin et l'après-midi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque jour, dans sa classe, il y a un élève dit vedette, donc qui est mis en avant. Et cet élève a le droit de prendre la tablette une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi, de jouer à des jeux et d'avoir avec lui un élève qu'il choisit pour l'observer, qui n'a pas le droit de jouer, mais qui peut l'observer durant tout ce temps. Donc déjà, ça a commencé à me questionner. Je me suis dit, bon, OK, l'élève, il s'isole avec la tablette, il est inactif. Donc du coup, il socialise pas avec les autres enfants. Il fait pas des jeux qui sont meilleurs pour son développement, comme des puzzles, des jeux de rôle, etc. Puis surtout, ce qui me gênait, c'est la tablette, elle est comme associée à la récompense. L'élève vedette, celui qui est mis en avant, il a la tablette. Donc ce que j'ai fait, je suis allée voir le professeur. Puis parce que je suis élève en psychologie, puis j'étais aussi préparateur physique dans le passé, donc je suis quand même très conscientisée. Et j'ai voulu expliquer que bon, on essaye d'inculquer des saines habitudes de vie dans notre famille. Je voulais savoir pourquoi il utilisait autant la tablette et puis surtout aussi pourquoi il l'associait à un élément de récompense.
Et qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Il n'a pas été désagréable, c'est pas ça, mais c'est qu'il m'a dit en gros à la fin, écoutez, la tablette, elle est là pour rester, puis ce sera comme ça. Il m'a répondu, si vous voulez, je peux ne pas la donner à votre fille uniquement. J'ai dit, c'est pas ça le problème en fait que je veux soulever. Je veux pas non plus marginaliser ma fille. Je dis, c'est autre chose, mais bon, ça c'est pas réglé. Donc comme ma fille va être là pendant plusieurs années, j'ai décidé de pas continuer à intervenir. Puis une semaine après, il m'a mis un message groupé avec la direction de l'école en disant que si j'avais des questions sur le plan de développement numérique, la directrice pourrait répondre à mes questions. Donc là, elle m'a envoyé un courriel qui présentait le plan d'engagement vers la réussite du gouvernement pour promouvoir l'utilisation saine des écrans. Elle m'a aussi envoyé un PowerPoint avec ce qui était préconisé, où justement c'était marqué « débrancher ». En primaire 1 et 2. Donc elle m'a envoyé tout ça. Bon, mon conjoint a demandé les objectifs pédagogiques associés à l'utilisation de la tablette, surtout en maternelle, parce que d'après ce que j'ai lu, les objectifs, ce plan-là, il n'était pas pour les maternelles, 5 ans. Et là, on m'a répondu, l'objectif, ce serait qu'il soit capable de fermer la tablette après son utilisation pour pas vider la batterie, de se déplacer sans briser la glace de la tablette.
Et le dit, si vous permettez, là, vous m'avez envoyé le courriel que vous avez reçu, que votre conjoint a reçu, qui justifie l'utilisation de la tablette comme outil de récompense dans la classe de maternelle de votre enfant. Que l'enfant soit capable de reconnaître des nombres au tableau afin d'accéder au code de la tablette pour avoir accès au jeu. Que l'enfant soit capable de monter et de descendre le volume. Que l'élève soit capable de faire des choix de jeu selon ses intérêts. Que l'enfant soit capable de fermer la tablette après son utilisation afin de ne pas vider la batterie. Augmenter l'estime de soi lorsque l'élève réussit à passer au niveau suivant. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, là, c'est le point 10 dans les arguments de l'enseignant, que l'enfant apprenne à reconnaître et tracer avec son doigt les lettres de l'alphabet et des chiffres. Qu'est-ce qui est arrivé au bon vieux papier-crayon?
C'est exactement la question que je me suis posée. Donc, j'ai décidé de contacter le gouvernement, puisque c'est lui qui est comme responsable de cette initiative. Et j'ai reçu le message comme quoi chaque prof avait le droit de faire ce qu'il voulait dans la classe et que je devais m'adresser directement à l'école. J'ai dit bon, d'accord. Puis, il y a autre chose qui s'est rajoutée à ça, c'est que le midi, une à deux fois par semaine, ils écoutent la télévision pendant l'heure du repas, pendant qu'ils mangent. Ils écoutent des dessins animés style Tom et Jerry. Donc là, j'ai fait OK, là, il y a un problème quelque part. C'est pas pour accuser l'école, là. Je veux pas accuser le professeur ni les intervenants auprès de ma fille. Je sais que leur but, c'est pas de nuire et ce sont de très bonnes personnes qui font aussi de très bonnes choses. Mais là, je me dis, le problème, il vient de plus haut, il vient du gouvernement. En fait, il donne une directive, mais il n'y a comme pas de structure autour. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Donc, on m'a répondu, oui, mais c'est exceptionnel. Après, c'est quoi exceptionnel? Est-ce qu'une à deux fois par semaine, c'est exceptionnel? Pour moi, ce n'est pas exceptionnel. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à faire au niveau de ce point de vue-là, de ce côté-là.
Écoutez, c'est, ce que je comprends, c'est que le ministère de l'Éducation a pas vraiment de mots à dire sur ce qui se passe dans les classes de maternelle. Si un prof veut enseigner tout au numérique, tout aux tablettes, ben il y a rien qui l'empêche, même si rien prouve que c'est utile.
Exact. C'est ce que j'ai compris là, d'après la réponse, d'après ce qu'il m'a écrit, oui.
OK. Vous êtes étudiante en psychologie. Quelle analyse vous faites des réponses que vous avez eues?
Ben, c'est sûr que au vu de tout ce qui se passe, l'utilisation, en fait, utiliser que ce que je veux dire moi en tant que parent, puis les autres parents, on a déjà du mal à contrôler les écrans de notre côté. Si on regarde les recommandations de l'OMS, les recommandations même du gouvernement, une enfant de 5 ans, donc c'est l'âge de ma fille, c'est moins d'une heure par jour. Donc déjà, si elle est d'écran récréatif, donc déjà on sait qu'ils en regardent trop. Donc si en plus l'école en rajoute du récréatif, ben là, ça fait qu'empirer le problème. Donc oui, c'est ça.
Bien d'accord avec vous. Ben, Madame Bertelier, merci d'avoir livré ce point de vue. Je pense que c'est important d'en parler, de continuer à en parler. Bonne chance dans vos débats avec l'école de votre fille.
Merci beaucoup.
À la prochaine. C'était Élodie Bertelier, étudiante en psychologie. Elle est aussi assistante de recherche au centre de recherche du CHU Sainte-Justine. C'est une mère inquiète. Sa fille est en maternelle. La tablette est utilisée comme récompense en classe. Et encore une fois, je le répète, je nomme pas l'école, je nomme pas le prof. L'idée, c'est pas de leur lancer des tomates. Je pense personnellement qu'on a eu une attitude bric-à-brac face au numérique à l'école. Il y a des juridictions comme la Suède qui sont en train de se poser des questions sérieuses. Est-ce qu'on est allé trop vite dans le déploiement des outils numériques pour l'apprentissage? Il y a des questions qui se posent. Il y a des études des spécialistes qui disent c'est pas super bon pour l'apprentissage. On est plus déconcentré quand on a une tablette. On retient plus l'information quand on prend des notes au crayon, par exemple. Si vous avez un téléphone puis que vous êtes entre 12 et 25 ans, téléphone fermé, en classe, sur votre table de travail, vous allez être déconcentré, même s'il est fermé. Tout ça. Pour les tout-petits, on a eu à ce micro, il y a quelques semaines, docteur Jean-François Chicoine, qui nous a rappelé ce que les pédiatres savent depuis longtemps. Un enfant, ça doit jouer. Le temps que ça passe sur des écrans, ça ne joue pas. Jouer, pas pour avoir du fun, pour apprendre à socialiser, pour développer des canaux cérébraux, pour apprendre à s'obstiner, dessiner, faire des dessins, des puzzles, etc., pour développer la motricité fine. Les écrans, là, quand tu as 5 ans, il n'y a rien qui prouve que ça t'aide. Quand je vois l'école qui donne ces réponses-là à cette mère, Élodie Bertelier, ça va être bon pour l'estime de soi parce que l'enfant va réussir des jeux sur une tablette. Je trouve ça complètement cinglé. Donc, message pour Bernard Drinville, ministre de l'Éducation. Bernard, t'es où dans ce débat-là?
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le Québec maintenant.
C'est pas de l'or blanc, c'est de l'or noir. Et ça fait des pétrodollars. Y'a pas que des bidons dans le pétrole.
Paraît qu'il y en a qui des idées. Je voudrais voir leur bagnole rouler. Tu mets autre chose dedans que du pétrole.
Johnny Hallyday et la chanson s'intitule Le pétrole. C'est ça, Max? Pétrole ou le pétrole? Gros choc à la pompe aujourd'hui. On frôle maintenant le 2$ le litre, ça a augmenté partout. Je le soulignais tantôt en début d'émission. Il est censé avoir une concurrence dans le milieu de l'essence, mais comme par hasard, comme par magie, il y a toutes les bannières en même temps là, qui ont augmenté le prix du litre d'essence. Il y a un débat à savoir si l'auto électrique est vraiment plus propre. Moi, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait le virage électrique. Et puis, je sais pas à la fin. Est-ce que pour la planète, c'est mieux d'avoir une auto électrique, une auto à essence? Je pense que le jury est encore en délibération là-dessus. Je peux vous dire une affaire. C'est le fun de pas avoir à donner de l'argent à Shell, à Petro-Canada, à Ultramar, etc. Ça, depuis 2 ans et quelques, là, je le regrette pas. Je sais pas, j'aide la planète, mais c'est le fun de pas donner de l'argent à des gens qui, comme par hasard, le même matin, décident tous en même temps de mettre le prix de l'essence au même prix, qu'importe la couleur de la bannière. Nicolas Ryan est directeur des affaires publiques chez CAA Québec. Monsieur Ryan, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui s'est passé ce matin?
Oui, c'est ce qui s'est passé ce matin. On s'est fait réveiller assez tôt. Le téléphone s'est mis à sonner très tôt. Là, avec justement une hausse là, de 15, 16, 17, 20 sous à certains endroits là, pour certaines bannières, en effet. Alors, c'est toujours un peu une surprise de voir ça. Là, on ne reçoit pas un courriel la veille pour nous dire qu'il y a des telles hausses qui s'en viennent. Et ben, ça a été le branle-bas de combat ce matin là, de voir justement qu'est-ce qui se passait avec tout ça. Et ce qu'on remarque, en fait, du côté de Québec, là, nous, on fait des observations sur le prix de l'essence à tous les jours. On est souvent très prompt, je vous dirais, à pointer du doigt les détaillants, en effet, là, qui vont augmenter leur prix souvent très rapidement. Mais dans ce cas-ci, ce matin, on a été surpris quand même de voir que ça ne semble pas être un enjeu au niveau là, de la marge au détail. Donc, c'est pas le moment d'aller chicaner son pompiste ou de lui dire que c'est sa faute à lui. C'est pas ce qu'on retrouve ce matin. On a des marges somme toute raisonnables. Quand on regarde notre prix réaliste CA Québec, là, on est en deçà de ces prix-là sur le marché. Alors, c'est ce qu'on a vu de nous de notre côté.
Pourquoi tout le monde change le prix en même temps?
Bien, en fait, tout le monde s'approvisionne pas mal au même endroit au final. Donc, ce qui est arrivé ce matin, quand on regarde justement les différents indicateurs, c'est que le coût d'acquisition de ce précieux or noir, comme le dit la chanson de M. Hallyday, tous les gens s'approvisionnent au même endroit. Donc, ce coût-là, c'est lui qui a monté énormément depuis hier. Alors, toutes les bannières qui probablement s'approvisionnent au quotidien au même endroit, ben, doivent payer cette essence-là plus cher. Donc, acheter un litre d'essence pour un détaillant ce matin, ça coûtait environ 1,81 à Montréal. Alors, si la bannière qui vendait, par exemple, à 1,68 hier ou 1,70, ben, qui achète son litre d'essence à 1,81 aujourd'hui, est-ce qu'on souhaite qu'elle le vende à perte au final ou est-ce qu'elle doit continuer en fait?
Non, mais je suis un peu tanné, M. Ryan, de jouer dans la fiction qu'il y a de la concurrence dans ce milieu-là.
Bien, la réalité, en fait, ce matin, quand il y avait quand même différents endroits qui ont été peut-être un peu plus lents à réagir. Par le passé, là, nous, de notre côté, on a fait des observations, par exemple, dans la région de Québec, on voyait là des marges au détail qui étaient très élevées. Donc là, on a posé des questions de comprendre justement pourquoi l'ensemble des bannières avaient des marges qui se ressemblaient. Je pense que c'est légitime de poser la question. Cela dit, je le mentionne, il n'y a pas 18 000 façons d'acheter de l'essence pour les détaillants présentement. Ils s'approvisionnent tous ou presque au même endroit. C'est un marché aussi avec une concurrence qui est mondiale. Hein. C'est pas au Québec qu'on décide du prix de l'essence, malheureusement. Alors, ce faisant, ben, ces bannières-là qui doivent s'approvisionner à cet endroit-là, c'est le prix qu'ils doivent payer sur le marché.
La question du passage de l'essence d'hiver à l'essence d'été, puis là, ben, c'est un mélange qui coûte plus cher. Je vous avoue, peut-être que j'étais en dessous d'une roche les dernières années, mais c'est la première fois que j'entends parler de ça. Vous?
Oui. Non, nous, on l'entend chaque année, mais cela dit, c'est pas le timing est peut-être pas bon cette année, dans le sens où une augmentation de 15 à 20 sous le litre, c'est majeur. C'est pas juste ça qui peut justifier une augmentation de 15 à 20 sous. Donc, en effet, c'est plutôt marginal, c'est peut-être 1 sou, 2 sous, 3 sous le litre. Mais oui, en effet, l'essence d'été coûte plus cher à produire. L'essence est différente en hiver pour aider justement les véhicules à démarrer par temps froid. Donc oui, on arrive au moment où on va changer ces essences-là. C'est supposé coûter un petit peu plus cher, mais certainement pas justement 15 à 20 sous, comme c'est le cas présentement. Et juste vous dire aussi, là, on a poursuivi nos observations aujourd'hui. Là où on semble voir qu'il y a eu une hausse au niveau du coût de l'essence, c'est au niveau de la marge de raffinage. Donc c'est de ce côté-là qu'on voit qu'il y a une grande disparité entre hier et aujourd'hui. Il faudrait probablement demander la question à l'industrie. Qu'est-ce qui explique justement ce changement-là au niveau de la marge de raffinage?
Donc, ça pourrait donner aux gens l'idée de peut-être passer à l'électrique. Et je sais que CAA Québec est partenaire d'un salon là-dessus là, qui va avoir lieu en fin de semaine.
Oui, bien, dès demain, là, c'est le salon du véhicule électrique de Montréal. En effet, là, on est partenaire depuis le tout début de ce salon-là. C'est au Stade Olympique pour les 3 prochains jours. Il y aura en effet plein de modèles de véhicules électriques qui vont être sur place. Nous, de notre côté, nos experts vont donner des conférences. Il y a d'autres conférences. Mais à chaque fois, justement, que le prix de l'essence grimpe comme aujourd'hui, c'est souvent le bon moyen de se poser la question. Est-ce que je veux passer à l'électrique? On peut aussi commencer à réfléchir à notre cocktail de mobilité. On sait qu'il y a des options qui existent. On peut faire, par exemple, prendre le transport en commun, faire un peu plus de transport actif. Je pense qu'il faut le mentionner. C'est une réalité. Les prix de l'essence ne sont plus comme ils étaient par le passé. On ne sera plus jamais en dessous d'1 $ probablement. Donc, posons-nous la question, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin de consommation pour notre voiture? Est-ce qu'on peut faire du covoiturage aussi? Il existe énormément d'options. c'est ce qu'on souhaite peut-être quand on voit des prix grimper comme ça, de se poser la question sur notre propre consommation.
Merci beaucoup, M. Ryan. Bonne journée.
Merci.
C'était Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques chez CAA Québec.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.